zambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe, c'est l'heure de la rétrospective de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Franck Azé assure la présentation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Des marches manifestations ont été organisées samedi dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi. Objectif, exprimer la joie après le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Les organisations de la société civile proche du pouvoir ont occupé le devant de la scène dans ces manifestations. Eddie Claude Ninina Azoué a suivi ces manifestations pour nous.
Ils avaient été annoncés à la veille de la tenue de la marche et manifestation avec l'itinéraire de chacun selon sa circonscription et toute activité devrait momentanément cesser. Les habitants qui avaient répondu à la manifestation pour saluer le retrait du Burundi par le Conseil de sécurité de l'ONU sur son agenda politique, mais certains participants, interrogés curieusement, sont allés saluer la levée des sanctions sur le Burundi. Parmi les slogans scandés, on pourrait entendre « Rendons gloire à Dieu, la communauté internationale est témoin ». Les participants ont été sommés de participer massivement à défaut d'être poursuivis. Dans les discours circonstanciels de Bujumbura, Ngozi passa par Gitega, à part saluer la décision du Conseil de sécurité. On exhorte l'Union européenne à lever les sanctions imposées au Burundi depuis 2015. Un discours unique prononcé par les représentants des organisations de la société civile acolytes du parti au pouvoir CNDD-FDD. Rappelons que des manifestations du genre organisées par le gouvernement et le parti au pouvoir il y a 5 ans étaient des manifestations contre l'ONU, l'Union européenne et des pays comme la Belgique, sans oublier les organisations internationales qui alertent souvent sur la détérioration de la situation des droits de l'homme au Burundi.
La joie du côté du pouvoir, mais le retrait du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU est interprété comme une déception par les réfugiés burundais. Parmi ceux qui se sont entretenus avec la radio Nzamba, certains craignent le pire dans les violations des droits de l'homme au Burundi. D'autres y voient un clin d'œil de la communauté internationale que les problèmes burundais ne concernent que les Burundais. Suivez-les.
Je n'ai pas apprécié cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'il y a tellement de problèmes déjà qui s'observent jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des cadavres retrouvés presque tous les matins, disons, dans une des communes qui composent le Burundi. C'est devenu comme une pratique au Burundi. Je pense que ce serait vraiment dommage que l'ONU retire le Burundi, que ce soit même de façon provisoire. J'ai une crainte justement que tous ces crimes ne continuent à être commis sans qu'aucune autorité, sans qu'aucun œil n'observe justement ce qui se passe.
Le retrait du Burundi sur l'agenda des Nations Unies montre que les Nations Unies ne sont plus préoccupées par la situation sécuritaire au Burundi. La paix et la sécurité semblent être établies au Burundi, mais ce qui est étonnant, nous continuons de voir ou bien de trouver chaque jour des cadavres qui rognent le rang des routes ou bien le rang des rivières. Et cela devrait attirer l'attention des Nations Unies pour ne pas venir repérer après que la situation se sera détériorée.
C'est une décision qui met l'huile dans le feu. C'est une décision qui peut décevoir les Burundais en général, mais qui donne la leçon aux Burundais de les montrer que tout dépend à eux, pas à la communauté internationale. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. La communauté internationale était là. On a vu et où on voit partout dans le monde. C'est le peuple qui prend la décision de se libérer par la communauté internationale en général. Donc, il faut rester debout. Il faut toujours avoir l'objectif et continue. Ce qui est très mal, c'est d'abandonner. Mais si on continue, et la communauté internationale va constater qu'on a une cause noble. L'aider, cela, la déception, oui, mais la leçon aussi est là.
Le 12 décembre, C'était la 5e commémoration des victimes des massacres des 11 et 12 décembre 2015. C'était en représailles d'attaques armées perpétrées contre 4 camps à Méry et en province Bujumbura. Difficile de dire avec précision le nombre de ces victimes, mais le porte-parole de l'armée d'alors, le colonel Gaspard Baratouza, a parlé d'au moins 80 personnes tuées. Il s'agit d'assassinats commis pour la plupart par des agents des corps de sécurité et des Imbonerakure. De nombreuses victimes ont été jetées dans des fosses communes. Emmanuel Niyungeko de la RPA nous fait le point.
Depuis le 12 décembre 2015, les agents de ces corps avaient déjà envahi et entièrement bouclé des quartiers dits contestataires au troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Ils tiraient sur tout jeune qu'ils croisaient à leur passage, arguant être à la recherche des rebelles qui venaient de mener des attaques sur 4 camps militaires, les camps Gagala, Muha, l'Institut supérieur des cadres militaires situé dans la municipalité de Bujumbura, ainsi que la 120e brigade de Mujijuru située dans la province de Bujumbura. Après avoir escaladé les clôtures des ménages, et parfois même défoncer les portes, ces policiers tiraient également sur ceux qui étaient à l'intérieur. Les quartiers ciblés étaient surtout ceux d'Ongagala, Nyakabiga, Jabe, Chibitoke et Musaga. La journée du 12 décembre 2015 a été caractérisée par des représailles contre des jeunes Tutsis et des opposants du régime. Des cadavres jonchaient les rues, laissant les familles des victimes dans la désolation. Vers la mi-journée du 12 décembre 2015, le colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée burundaise d'alors, dresse le bilan.
Côté ennemi, 79 tués, 45 capturés, 97 armes et beaucoup de munitions saisies.
S'adressant à l'agence France Presse, le colonel Gaspard Baratouza a également déploré la mort de 4 militaires et 4 policiers ainsi que 21 blessés côté forces gouvernementales. Dans la foulée, les organisations de la société civile ont documenté des centaines de jeunes gens tués puis jetés dans des fosses communes. On se tirait ici ceux qui ont été enterrés en zone Kanyosha, commune Muha, dans la municipalité de Bujumbura et au cimetière de Muhanda, en commune Gihanga, de la province Bubanza. Selon des sources concordantes et dignes de foi, le rôle majeur des Imbonerakure sélectionnés par le pouvoir sur base de leur virulence dans cette opération était de collecter les cadavres des victimes puis les enterrer dans les fosses communes. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a jamais été menée pour éclairer l'opinion sur ce carnage.
Emmanuel Niyungeko, c'était dans le cadre d'une synergie organisée pour l'occasion par les radios Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. La prison de Muyinga est surpeuplée. La situation est telle que des sources au sein de cette prison rapportent que les détenus ont même du mal à trouver où mettre le pied. Selon les mêmes sources, cette surpopulation est due à la lenteur du traitement des dossiers des prévenus. Prosper Ndissabira, reportage.
Cette maison carcérale, qui a la capacité d'accueillir 300 personnes, héberge actuellement plus de 530 prisonniers, selon des informations concordantes reçues par la radio Inzamba. Sur 339 prisonniers, 489 sont des hommes, dont plus de 390 condamnés et 96 prévenus, 45 femmes, dont 33 condamnés et 12 prévenus. À côté de ces prisonniers adultes, on dénombre aussi 5 nourrissons. De l'avis d'un juriste, deux raisons expliquent cette surpopulation carcérale. La première, c'est que certains magistrats affichent une lenteur notoire dans l'instruction des dossiers des prévenus. D'autres optent pour les emprisonnements alors que des présumés accusés pouvaient être poursuivis tout en étant libres. Et pourtant, la ministre de la Justice avait donné un délai de 2 mois au juge président des cours et tribunaux pour vider le dossier des prisonniers non encore achevé. La ministre de la Justice l'avait déclaré au début du mois de septembre lors d'une descente effectuée dans la prison de Gitega.
Et puis, cette pensée pour nos 4 consoeurs et confrères du journal Iwachu qui totalisent aujourd'hui 419 jours d'incarcération. Ils sont accusés de tentatives impossibles de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs burundais chacun.
Le viol en général et le viol comme arme de guerre en particulier est un crime puni par la loi burundaise et les textes et conventions internationales. Comme le stipule l'article 61 de la loi burundaise numéro 1/13 du 22 septembre 2016, portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, le viol est un crime inamnistiable, imprescriptible, incompressible et non graciable.
Ceci est un message de la radio Inzamba Agateka Kawe,
en partenariat avec le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle.
L'ISABU, Institut des sciences agronomiques du Burundi, fait face à des difficultés qui pourraient conduire à sa faillite. En cause, les nominations à des postes de responsabilité qui mettent de côté le critère de compétence en mettant en avant les appartenances ethniques et politiques. Selon des sources au sein de l'Institut, le personnel plaide pour des mesures rapides visant à sauver l'ISABU. Bonfils Niongele s'est penché sur le dossier.
Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzambaga TKKW au sein de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU en sigle, révèlent que ce retard serait lié par le fait que les responsables de l'ISABU ont recruté 7 nouveaux employés sans l'aval de la fonction publique. Celle-ci aurait ordonné de présenter la liste des paiements des salaires qui ne contient pas les noms des nouveaux employés. Le directeur général de l'ISABU, Dr. Alfred Niokwishimira, aurait accepté, mais ce que Mme Fabiola Nivis, directrice administrative et financière, aurait refusé, demanda plutôt la radiation des retraités qui bénéficient des indemnités de fin de carrière pour une période de 5 ans. Des indemnités pourtant reconnues par le décret présidentiel, conformément au statut de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi pour essayer d'apporter une réponse efficace aux fuites de cerveau dont l'ISABU a été souvent victime. Des indemnités que le personnel de l'ISABU considère comme un droit acquis. Les mêmes sources indiquent en outre que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage veut ôter de l'ISABU son autonomie de gestion pour qu'elle dépende directement du ministère de la fonction publique. Une autonomie qui, pour le personnel de l'ISABU, permet à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi de pouvoir mener des études agronomiques et scientifiques dans la seule optique de préserver la sécurité alimentaire des citoyens burundais. Le personnel de l'ISABU demande au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Drouema, de préserver les droits acquis du personnel de l'ISABU et à la direction générale de l'Institut de débloquer la situation pour qu'il puisse terminer l'exercice 2020 en cours en beauté. Contacté par la rédaction de la radio Nzambaga TKKW, le directeur général de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Dr. Alfred Niokwishimira, dit ne pas être au courant de toutes ces informations et de nous renvoyer plutôt auprès de nos sources pour en savoir plus.
Et pour terminer, une personne est morte lundi et plus de 30 maisons ont été détruites dans la province Lomongué. Nos informations dans cette province indiquent que c'est suite à une pluie torrentielle mêlée à de la grêle qui s'est abattue sur cette province et qui a causé de nombreux autres dégâts. Des habitants de cette province demandent une aide humanitaire. Parfait Moudassigana.
La personne morte a été noyée dans la rivière Nyamga de la commune Mouhouta en province Lomongué. Nos sources indiquent que, sur la même colline, une dizaine de maisons a été détruite. Les mêmes sources précisent qu'une église catholique a été aussi détruite dans la localité de Nyaruhongoka de la commune Chassi, en commune Bugarama de la province Lomongué. Le bureau de la commune Lomongué n'a pas été épargné de cette pluie torrentielle. Plus d'une dizaine de maisons ont été détruites par ces pluies mêlées de vents violents sur les collines de Rukinga et Birimba de la même commune. Des habitants de ces localités indiquent que 3 salles de classe ont été détruites, l'un de Rukinga et 2 autres infrastructures de l'école fondamentale urbaine de la commune Birimba. Les habitants sinistrés, passés intempéries, sont logés dans les familles voisines, selon nos sources à Lomongué. Ils demandent d'être assistés.
C'est la fin de cette rétro de la semaine qui s'écoule. Merci de nous rester fidèles. Portez-vous bien.
Ngiyi Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.